J'aimerais vous proposer ce soir un enseignement un peu technique qui correspond aux obstacles, les sept facteurs de l'éveil. Lorsque nous fermons les yeux, que nous nous arrêtons, le contenu de l'esprit se transforme et nous pouvons bien sentir en retraite comment les choses changent. Et ces facteurs de l'éveil, nous les expérimentons et quand nous pouvons en plus les nommer, leur pouvoir transformateur est plus, on pourrait presque dire efficace. Ce ne sont pas des créations, ces facteurs de l'éveil, ce sont des mots mis sur des réalités qui apparaissent lorsque nous contemplons le qui suis-je. Et le but, c'est toujours le même, c'est d'être libéré des émotions perturbatrices qui voilent l'esprit et qui empêchent la claire vision. Et qui mène à reproduire le karma. Et bien sûr, derrière les émotions perturbatrices, il y a ces tendances répétitives. Donc, les facteurs de l'éveil, il y en a sept. Le premier, c'est la joie ou l'intérêt. Le deuxième, c'est l'investigation ou la pensée au service de la pratique et du discernement ou de la sagesse. Le troisième, c'est l'énergie. Le quatrième, c'est la pleine conscience. C'est le chef. C'est celui qui est vraiment au cœur. Tout gravite autour de la pleine conscience. Le cinquième, c'est le calme. Ensuite, il y a la concentration. Cette focalisation sur un objet, cette stabilité mentale. Et le dernier, c'est l'équanimité. La reconnaissance de ces facteurs de l'éveil aide à intégrer l'impermanence parce que la force du monde des perceptions est très puissante. Lorsque nous sommes touchés par le jugement ou lorsque nos attentes ne sont pas rempli, le cœur est touché profondément. Nous avons cette impression que tout chavire, que nous, il y a cette sorte de vibhava, de non-existence. Je me sens nulle. Ou comme si je n'avais plus ma place sur cette planète. Et puis ça change, et tout à coup, les choses sont vécues totalement différemment. Donc les obstacles nous donnent cette impression lorsqu'il y a une attaque de doute personnel ou par rapport à l'autre. Nous tombons dans le côté douloureux et lorsqu'il y a cette qualité de joie, de présence, de voilà, c'est autrement. Donc, le premier de ces facteurs de l'éveil, la joie. La joie spirituelle. C'est ce plaisir d'être là avec ce qui est, de d'avoir cet intérêt. De dire oui, le corps est prêt. Quand je viens m'asseoir, il n'y a pas cette espèce de oui, mais si c'est comme ci, ok, si c'est comme ça. Non, je viens m'asseoir et je suis prête. Et puis qu'est-ce qui vient? Le corps dit oui. Le cœur est tout ouvert. Et le mental suit ce mouvement d'intérêt. Le mental questionne plutôt qu'il sait ou qu'il ne sait pas. Lorsque nous approfondissons le chemin, cette joie peut être piti en pali, peut être très forte. Le corps peut avoir l'impression d'avoir des de la lumière, de des vibrations extrêmement plaisantes. Le cœur se sent puissamment connecté. Et nous pouvons reconnaître que c'est une expérience spirituelle. En général, la tendance, c'est de s'attacher, de confondre un peu l'expérience avec la libération. Et ce qui est important, c'est de nommer notre intention. À travers toutes ces expériences bénéfiques, se souvenir que le but n'est pas d'avoir, mais c'est de lâcher. L'expérience est là pour nous encourager sur le chemin, pour nous stimuler à aller plus profondément dans l'effort et dans la rencontre avec Dukkha, parce que ça va ensemble. Plus j'accepte de voir l'ombre, plus je vais pouvoir remonter dans les connexions spirituelles plus profondes. Le deuxième facteur, c'est l'investigation. Quand on partageait là à midi, on était vraiment dans l'investigation. C'était plus la discussion de savoir comment va ma vie, qu'est-ce que je vais faire quand je partirai d'ici, pourquoi j'ai choisi de venir ici plutôt que d'aller ailleurs. C'est ce mental qui vient vraiment au service de la pratique, qui questionne comment être là, qu'est-ce qui est là, et puis qui élabore aussi au niveau des concepts qui sont partagés une réflexion, une vérification. Je me souviens, il y a eu toute une période dans ma vie où je passais mon temps à faire des enseignements. Je faisais de la méditation, puis je passais mon temps à imaginer que j'expliquais des trucs. Alors après, c'est devenu vrai. Et c'était bien. C'était, je voyais bien que c'était il y avait une forme de vanité derrière. Et puis, en même temps, le sens du moi, mais en même temps, cette élaboration des enseignements avec les questions, les doutes, les réalisations. Ça se réalise peu à peu dans les cellules. Donc on peut faire la différence et ce n'est pas une question de mieux ou de moins bien. C'est comme ça, des fois c'est comme ci, des fois c'est comme ça. Mais nous pouvons reconnaître quand nous sommes dans la pensée ordinaire, qui est parfaitement nécessaire parfois pour faire le clair sur nos vies, ou dans cette investigation du dharma, qui aide à transformer ce regard sur le monde, qui fait que la forme de notre pensée se transforme. L'investigation se fait au niveau du maintenant. Est-ce que je suis là? Avec quoi est-ce que je suis là? Comment est-ce que je suis là? Je peux repérer si mon fonctionnement d'exigence est en route juste maintenant. Donc je peux transformer les habitudes. Et comment est-ce que je suis là? Cette non-préférence qui vient peu à peu parce qu'il y a le respect du maintenant. Et puis l'autre chose, c'est cette investigation des quatre vérités nobles, repérer les obstacles. C'est très différent de rester dans l'agitation ou de dire ah, agitation. Comment est-ce que je fais pour être là avec, plutôt que de penser qu'il y a un problème quelque part? C'est très différent aussi lorsque le dos a mal ou de dire ah, mais c'est dukkha, hein? Là il y a dukkha chez moi, mais c'est peut-être aussi chez les autres, hein? Le cœur s'ouvre. Et de reconnaître les facteurs de l'éveil qui sont là, qui souvent accompagnent l'expérience douloureuse. Et quand je peux dire, OK, il y a agitation et je suis là, il y a un équilibre qui se crée. Le fait de venir avec metta ou avec la compassion ou les refuges, tout ça fait partie de cette investigation. Comment être là avec le bon objet de conscience, le moyen habile le plus utile. Et puis alors peu à peu, je me lie à cette conscience intuitive et je parle à partir de ce cœur de l'être. À moi-même, hein, puisqu'on parle de cette investigation. Le troisième aspect, l'énergie. C'est fatigant d'essayer d'être là. C'est pas quelque chose qui nous est donné, étonnamment. On pourrait croire qu'on s'arrête, qu'on ferme les yeux, c'est bon, je suis Bouddha. Mais c'est pas tout à fait comme ça. L'énergie, elle émerge lorsque nous lâchons la pensée ordinaire. Que l'effort devient est bien dans le chemin du milieu. Je sais qu'on donnait un peu de concentration parce que ça devient coussi-coussa, qu'on ouvrir à la pleine conscience parce que je suis trop dans la concentration. Les forces s'équilibrent. Au début, en général, nous sommes beaucoup trop volontaires. Ça part d'une bonne intention, mais nous nous fatiguons beaucoup à trop vouloir. Et quand tout ça se met en place, alors il y a une grande énergie qui vient parce que le moi s'arrête, hein, parce que le moi est beaucoup véhiculé par la pensée. Donc quand il y a ces pensées de jugement, d'intérêt pour moi, ça fatigue. J'avais fait à l'époque une retraite à Chichester, en Angleterre. Puis pendant une semaine, je vous jure, hein, pendant une semaine, j'ai pas fermé l'œil. J'ai pas dormi. J'avais absolument plus besoin de dormir parce que la pleine conscience était là, elle était établie, et puis je me reposais en étant là. Je dormais sous tente. Je passais toute la nuit. J'étais là, tout allait bien. Puis je me levais le matin, absolument pas fatiguée. Ça avait duré plus d'une semaine, je crois. Étonnant, hein? Ce sont des expériences spirituelles qui ne se reproduisent pas, ou pas forcément, mais qui montrent combien nous nous fatiguons quand nous ne savons pas être là. Et au quotidien, lorsque je suis fatiguée, oh, je suis fatiguée. Ce qui fatigue le plus, c'est l'identification à la fatigue. C'est moi qui suis fatiguée, j'en peux plus, mais c'est vraiment épuisant. Mais si je dis, ah ouais, il y a la fatigue, et puis je suis là, et puis je continue mes trucs, un quart d'heure après, tout d'un coup, je vois qu'il n'y a plus de fatigue. Alors, c'est délicat de savoir est-ce que il faut savoir faire des vacances de présence, il faut savoir aussi aller se coucher et bien se reposer. De nouveau, nous pouvons oser nous tromper. Je vais me reposer un peu trop, puis je me rends compte, non, c'est pas comme ça. La pleine conscience, on en a beaucoup parlé, c'est cette présence. Avant qu'elle devienne cette joie de l'instant, quelquefois nous faisons l'expérience de la présence pure. C'est un moment où c'est comme si tout s'arrête, hein, comme si l'ordinaire n'est plus là. Des fois, l'impression, c'est que j'ai juste passé en-dessus des nuages et puis que tout est clair. Et nous pouvons reconnaître cette expérience de la présence pure, ce qu'on appelle l'attention pure. C'est en général une expérience qui ne vient pas 50 fois. Parce qu'après, nous employons la présence pour l'instant, pour le quotidien. Donc, au début, on a l'impression que la pleine conscience, c'est quelque chose de spécial. Et puis, peu à peu, je me rends compte que c'est juste cet espace réceptif qui est accueillant, tout simple. Je vous lis une petite parole. Par rapport à cette joie de l'instant, à cet intérêt, qu'est-ce qui fait que l'esprit garde de l'intérêt pour maintenir l'attention sur les petites choses de la vie? C'est la sagesse qui murmure, c'est la seule manière de rester dans la joie en vivant dans ce monde. Et oui, je vous lis encore une parole d'Eckhart Tolle par rapport à la présence qui dit « Je ne suis pas le contenu de ma vie. Pensée, émotion, perception, expérience sont le contenu de ma vie. Ce qui se passe dans ma vie n'est pas tout ce que je suis. La vie est vécue à moitié car je suis dans la confusion. Le présent est assombri par le temps. Je ne suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes perceptions sensorielles, ni mes expériences. Je ne suis pas le contenu de ma vie. Je suis l'espace dans lequel tout se produit. Je suis la conscience. Je suis. » Je suis tout à fait le moi ordinaire, mais quelquefois je fais cette expérience de présence pure qui me montre mieux l'aspect du je suis qui est la non-expérience. Le calme. Le calme, c'est un état intérieur que nous pouvons nommer quand il émerge, qui fait drôlement du bien. Tout à coup, c'est calme. Le corps est tranquille. Le cœur est juste paisible, ouvert. Et le mental, peut-être que de temps en temps il raconte quelque chose, mais pas grand-chose. Et lorsque cette expérience émerge, nommez-la plutôt que de vous l'approprier en croyant que c'est bien, que bien sûr ça fait du bien, mais c'est pas plus moi que quand c'est agité. C'est juste calme. Et je peux goûter, je peux me nourrir, je peux même m'attacher, mais en conscience. Je vois que, ah ouais, je suis drôlement attachée au calme. Et comme ça, ce qui se clarifie, c'est combien cette vision claire de l'instant, même si c'est l'attachement, c'est merveille. C'est ça qui permet le lâcher prise. La concentration, c'est une maîtrise de l'objet de conscience. Comme l'esprit devient stable, je peux rester là où je veux. Je peux aller dans l'espace et le silence, je reste là. Je peux aller dans l'émergence conceptuelle si on a, je reste là. Le chat qui guette le trou de la souris. Et j'y reste longtemps, c'est un peu hors du temps, j'y suis, quoi. Le corps est là, aussi. Souvent, la pensée se tait complètement. Il y a juste cette espèce de vibration de... de vie intérieure et extérieure. L'esprit peut être large, mais il est aussi focalisé. Quelquefois, il aime bien rester juste sur une chose, comme la respiration, et alors ça devient hyper fin. Tout d'un coup, je ne respire plus. Et pourtant, je continue à vivre. On peut ne plus respirer pendant longtemps avec des états de concentration. Il y a une nonne au PK qui était allée faire une retraite chez... à Tournon, je ne sais plus comment s'appelait le moine. Elle était restée 7 jours sans bouger. Alors, ce n'est pas ça qui va développer la sagesse, mais ce sont des expériences qui quand même nous ancrent dans ce mystère du qui suis-je. Ce que les sens nous donnent, c'est en fait extrêmement limité. La concentration. Le dernier aspect, c'est l'équanimité. On l'a déjà un peu abordé. C'est une qualité du cœur. Hein. La concentration est plus une qualité du corps et de l'esprit. L'équanimité... c'est une rencontre, c'est plus une rencontre avec le maintenant qui accueille avec compassion lorsque c'est douloureux et qui accueille avec joie lorsque c'est bienfaisant, mais sans aucun rajout. Sans aucun désir que ça dure, sans aucune appropriation. J'avais écrit quelque chose par rapport à ça. Après l'intensité des rencontres avec l'enfer et le paradis, vient un temps où il y a une solidité, une simplicité, un profond contentement pour rien. C'est l'expérience de l'équanimité. Ajahn Chah dit que c'est des fois tellement fin qu'on ne le voit même pas, mais c'est l'absence totale d'aversion et d'attachement. Et c'est un peu neutre. Et le moi, il n'aime pas tellement le neutre. Je vous donne des exemples parce que quelquefois, c'est assez parlant. Dans une retraite, tout allait bien. Puis un matin, je me réveille, je vais marcher, puis ça n'allait pas. Puis je regarde, puis tout était comme hier. Puis je me suis dit, c'est vraiment bizarre, c'est tout comme hier, pourquoi ça ne va pas? Mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors, je suis allée chez l'enseignant, j'ai expliqué le truc, tout ça, puis il m'a dit « Oh, mais c'est normal, tu vois, c'est parce que tu ne sais pas reconnaître le neutre. Tu ne sais pas apprécier le neutre. » Et c'était une expérience très bénéfique parce que j'ai pu voir comment En fait, le moi adore l'intensité. À la limite, il aime mieux souffrir que d'être dans l'ennui ou dans le neutre. Et de reconnaître que c'est neutre, c'est juste assez, c'est très proche du nirvana. Donc dans l'assise, nous pouvons travailler l'équanimité en se questionnant quelles sont mes préférences? Est-ce qu'il y a une préférence? Parce que l'équanimité n'est pas un état intérieur. C'est une manière de rencontrer les choses sans préférence. Et pour que cette réalisation s'incarne, nous n'avons pas le choix que de mettre en lumière les préférences. Ah ouais, moi je préfère quand j'ai pas mal aux genoux. Ok. Ah ouais, vraiment, je préfère quand j'ai pas mal aux genoux. Oh, moi je préfère quand je donne un bon enseignement. Ah ouais, je préfère si je donne un bon enseignement. En oubliant que tout est subjectif. Et j'aime bien quand, je crois que c'est Saint Paul qui dit, vanité des vanités, tout est vanité. Ce monde est Maya, ce monde est illusion. Nous lui donnons trop d'importance et en lui donnant trop d'importance, nous lui enlevons ce qui est précieux. Donc la présence maintenant, c'est quelque chose qui est intérieur, extérieur, contenu, contenant, qui est, comme dit Eckhart Tolle. Je vous lis encore une parole de moi. L'attention à l'instant est un éclat de vérité, une parcelle de Dieu. Elle est vide de toute saisie et pleine de l'expérience, ici et maintenant. De même, le dharma, la vérité, est ressenti infiniment vide et pourtant pleine de tout le créé et de l'incréé, de l'immense et du minuscule, du bien et du mal, du sacré et du profane, du passé, du futur, du présent, de la vie et de la mort. Le plus difficile, je le voyais pendant que je vous proposais le travail sur le pardon par rapport au monde, c'est l'équanimité pour le monde. Notre attachement au monde est puissant. La peur de le perdre est puissante. Travailler, voir jusqu'où je peux accepter, où je ne peux plus, où je prends position, je prends parti. Lorsque nous prenons parti, nous séparons terriblement. J'ai vu un temps présent, vous l'avez peut-être vu, sur Israël et la Palestine. Et puis on montrait d'abord la Palestine avec la misère, et puis les gamins quand même contents qui montraient, voilà, qui regardaient le journaliste, parce que la vie continue. Puis après, de l'autre côté du mur, une famille qui venait d'Éthiopie. 5 enfants, une maman enceinte, qui vivait dans un espèce de machin, un mobil-home, tout petit, depuis longtemps. Ils avaient quitté leur pays. Et puis, ils interviewaient cette maman qui était adorable, hein. Elle s'occupait de ses 5 enfants dans ce tout petit espace et qui disait, ben nous, on est là parce que c'est la terre promise de l'autre côté du mur. On va pouvoir s'installer là-bas. Puis ça m'a terriblement touchée. L'aveuglement. On croit que c'est la terre promise, c'est ma terre promise. Puis je viens attendre là dans des situations dramatiques pour prendre la place de quelqu'un d'autre. Et puis de quelqu'un d'autre qui souffre de l'autre côté. Quelle souffrance partagée. Et puis je partageais ça à un couple des personnes qui promènent leur chien avec moi quand je promène mon chien, qui sont évangélistes. Et puis au moment où je partage ça, il y a la dame qui dit ah oui, mais c'est dit dans la Bible, la terre promise. Et j'ai senti en moi, paf, je mettais le mur. J'ai mis le mur. C'était très intéressant. Je me suis dit, attends, tu es en train de faire pareil, tu mets le mur. Tais-toi. J'ai rien dit. Mais ce qui était vraiment touchant pour moi, c'est de sentir que juste avant, on était vraiment ensemble, parce qu'on partage beaucoup au niveau spirituel. Puis tout d'un coup, elle a dit ça. Ah ouais, mais dans la Bible, c'est dit la terre promise. Pas facile, hein, de partager nos valeurs dans l'équanimité. Eh ben, c'est le monde. C'est le monde. Il va jamais être autrement. C'est Ezra Baïda qui dit, la pratique, c'est de comprendre enfin le paradoxe de base que bien que tout soit chaos, tout est bien. Important de se souvenir des fois. Et l'autre chose, j'aime bien ce Ezra Baïda, la pratique, c'est d'être conscient de la fausse promesse de nos idéaux et de notre imaginaire. Et de revenir ici et maintenant, et sentir comment je mets le mur. Ben eux, ils mettent leur mur, quoi. On est tous pareils. On pourrait être eux, d'un côté ou de l'autre. Et quand je prends parti, j'oublie, j'oublie. Alors bien sûr qu'on va s'engager en faveur des victimes, mais franchement, si je devais choisir d'être bourreau ou victime, je ne crois pas que je choisirais d'être bourreau. Ça, c'est l'investigation du dharma, hein, de savoir comment se situer dans le monde. Parce que ce que nous faisons sur notre coussin doit servir à offrir au monde ce que nous pouvons offrir de plus sage, de plus connecté. Je vais finir avec une parole de Krishnamurti. Pour définir les facteurs de l'éveil. La méditation en cette heure était liberté. C'était comme d'entrer dans un monde inconnu de beauté et de calme. C'était un monde sans images, sans symboles, sans paroles, sans aucune vague de mémoire. L'amour était la mort de chaque instant, et chaque mort était le renouveau de l'amour. Il n'y avait pas d'attachement, il n'y avait aucune racine. Les fleurs s'épanouissaient sans raison. C'était une flamme qui consumait les limites soigneusement construites de la conscience. C'était la beauté au-delà de la pensée et du sentiment. Elle ne reposait pas sur des mots ou sur une recherche. Elle n'était pas gravée dans le marbre. La méditation était joie, et cette joie était une bénédiction. Nous pouvons prendre un moment en silence.